Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de parler du livre d'Ézéchiel. C'est un livre qui est quelquefois peut-être un peu difficile et assez particulier. Donc c'est un des quatrièmes livres des prophètes. Alors le livre d'Ézéchiel s'adresse aux Juifs exilés et aussi à ceux qui étaient encore à Jérusalem, puisque il y a eu trois grandes déportations de Juda qui sont déroulées en trois temps. Une première en moins 605 avant Jésus, où il y a eu la déportation notamment de Daniel, avec pas mal de quelques enfants, jeunes de la noblesse, on va dire. Ensuite, il y a eu un deuxième exil en moins 597, où là, Ézéchiel a été déporté, avec pas mal de cadres et de responsables du pays. Et puis, il y avait toujours le roi, etc. Et puis, en 587, Sédécias s'est révolté un peu contre le roi de Babylone. Et donc là, les Babyloniens sont venus et ils ont détruit la ville, profané le temple, et ils ont emmené le reste du peuple. Et donc, Ézéchiel va parler pendant cette période, et même un peu après, et il s'adresse à tous les Juifs, qu'ils soient à Babylone, ou en Chaldée, on va dire, ou alors ceux qui sont restés à Jérusalem et en Israël. Et donc, c'est une population, la population déportée, elle est désespérée, elle n'a plus vraiment de berger. Dans le pays, c'est un peu ça aussi. Hein. Et donc, voilà, c'est vraiment ce message, des messages de Dieu. On va voir que le but principal du livre, c'est d'amener cette population à se repentir et aussi reprendre confiance dans l'avenir. Alors le livre commence par l'appel d'Ézéchiel et on va donc lire une bonne partie du chapitre 1. Donc je vais lire comme ça. Donc comme j'étais, donc c'est Ézéchiel qui parle, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, donc c'était près de Babylone, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Joachim, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, ou du bronze poli. Sortant du milieu du feu, au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Puis un peu plus loin dans le chapitre, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée, en un jour de pluie, l'arc-en-ciel, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Donc là, on voit que ça commence directement par une vision qui est quand même assez forte. Hein, on voit vraiment l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Et Dieu lui ordonne d'être son messager, son prophète. Il lui montre sa gloire au milieu des chérubins. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Hein. C'est décrit avec des mots humains, mais je pense que c'est indescriptible. Et il y a beaucoup de visions dans ce livre. Et on va y voir notamment... la gloire de Dieu, mais on voit aussi que c'était un peu nouveau à ce moment-là, c'est que la gloire de Dieu n'est pas attachée à un pays, puisque là il était hors du pays d'Israël et il a quand même la présence de Dieu qui vient, qui lui montre ces choses merveilleuses. Et donc c'est comme une sentinelle comme un veilleur qu'Ézéchiel avertit le peuple du jugement qui est consécutif à leur péché. Et l'objectif, c'est de les amener à la repentance. Et c'est ce que demande Dieu à Ézéchiel. Et on va voir au chapitre... Alors oui, on peut juste passer la planche d'après. Là, j'ai juste mis une illustration, mais bon, c'est une des illustrations. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà, c'est une gravure d'un Français au XVIIIe siècle. C'est difficile de façon de décrire ça. Alors, je ne sais pas si les artistes, comme Christian, ont des idées, mais enfin, voilà. Tu peux passer juste la planche d'après. On va lire au chapitre 3, où Dieu lui donne vraiment encore plus cette vocation, cet appel. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver sa vie, la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. » Donc là, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même... voilà, c'est un peu... c'est une mission difficile. Et puis Ézéchiel, il n'a pas le choix. Hein. Vraiment. Voilà, donc il voit des choses magnifiques, mais il y a aussi une mission qui va avec. Et donc Dieu va lui demander, on va voir dans le livre, d'illustrer son message par différents moyens. Alors il utilise bien sûr des oracles, il va parler, il va voilà, et prononcer, mais il va aussi écrire des lettres, on va le voir pendant un moment. Et puis il va aussi utiliser des mises en scène. Alors il y a certaines mises en scène qui sont particulièrement difficiles à comprendre. On pense que c'est quand même, il ne les a pas vécues vraiment, mais il les a vécues en vision, et qu'ensuite il les racontait au peuple. Mais voilà, de toute façon, c'était des choses qui étaient assez difficiles à vivre pour Ézéchiel. On voit au verset, enfin dans un verset, « Je racontais aux captifs, il peut passer juste, je racontais aux captifs toutes les choses que l'Éternel m'avait fait voir. » Donc l'Éternel lui fait voir des visions, lui montre, lui donne aussi des messages, et puis lui, il les retransmet. Et donc, il va vraiment être dans une école d'humiliation, il va avoir des choses difficiles à vivre, même si c'est seulement en vision, et puis ça lui permet de mieux s'identifier au peuple, de mieux comprendre le message qu'il doit faire passer, et donc de mieux le faire passer. Alors au chapitre 4, Dieu lui fait vivre une mise en scène qui est donc pour annoncer le siège de Jérusalem. Il est donc en captivité à Babylone, près de Babylone, et il y a toujours le gouvernement, enfin la royauté en Israël, qui sont sous domination des Babyloniens, mais ils sont quand même encore là. Et voilà, on sait que Ézéchiel annonce que Jérusalem va être assiégée et Jérusalem va être détruite. Et donc, là, Dieu lui demande de rester couché plus d'un an d'un côté, sur un côté, puis plus d'un mois sur un autre côté, pour illustrer le nombre de jours. Alors, il y a plusieurs interprétations, le nombre de jours de la captivité ou le nombre de jours de... Enfin bon, mais en tout cas, c'est vraiment pour montrer au peuple qu'ils vont vivre des choses difficiles. Il lui fait manger même des pains qu'il doit faire cuire sur des ordures, des choses qui, pour les Juifs qui avaient des règles de pureté depuis la loi de Moïse, c'était vraiment très 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 difficile à vivre. Un peu comme quand Pierre a vu cette vision que Dieu lui a dit « Mange les animaux que je te propose » et c'était des animaux impurs. Donc lui, il était comme ça. Et là, on voit Ézéchiel qui c'est pareil. « Non, je ne peux pas manger ça. » Donc voilà. Alors, si on prend juste quelques versets pour illustrer un peu ce que. Donc, Dieu me dit, Fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain dans Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et dans la douleur. Au poids, c'est-à-dire vraiment limité. Ils boiront de l'eau en petite quantité et dans la consternation. Ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront stupéfaits les uns et les autres et frappés de langueur pour leur iniquité. Donc là, à ce moment-là, ceux qui étaient à Jérusalem, ils pensaient pas qu'ils croyaient que ça allait continuer comme ça, mais là, il leur annonce qu'il va y avoir un siège, qu'il va y avoir une famine, et qu'ils vont devoir aussi, quand ils seront exilés, pas obligatoirement, pourront plus respecter les règles de pureté qu'ils ont, dans lesquelles ils ont été enseignés depuis le début. Et puis, au chapitre 5, Dieu demande à Ézéchiel de se raser la tête. Et là encore, c'est une image du jugement de Dieu, parce qu'on se rasait la tête que quand on avait un deuil. Et puis, avec les cheveux, il va les brûler en trois morceaux. Ça, c'est pour illustrer qu'il va y avoir un tiers des habitants de Jérusalem qui vont être brûlés par le feu, quand les Babyloniens brûlent la ville. Un autre tiers qui va être tué par l'épée. Et puis le troisième tiers qui va être dispersé. Et il va encore y avoir pas mal de morts là par l'épée quand ils vont être rattrapés par les Chaldéens. Et donc on voit que Dieu annonce une vraie hécatombe quand il va y avoir cette attaque de Jérusalem et du Temple. Et donc ensuite, les chapitres 7 à 11, c'est des annonces vraiment dures du jugement de Dieu sur les Juifs qui sont notamment à Jérusalem. Ézéchiel 7, « Au dehors l'épée, au dedans la peste et la famine. Celui qui est dans les champs mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la peste et la famine le dévoreront. » Donc on voit que Dieu annonce dans ce passage-là aussi que sa présence quittera le temple. Il y a une image que la présence, la gloire de Dieu qui quitte le temple. Et puis le temple sera profané et détruit par donc les Babyloniens qui arrivent. Et il y a même là aussi une prophétie de comment va périr un peu le roi, Sédécias, puisque Ézéchiel illustre par un mime, donc là Dieu lui fait vivre un mime, et qui illustre la fuite du roi Sédécias et l'exil du peuple. On peut lire le chapitre 12, deux versets au chapitre 12. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son bagage sur l'épaule dans l'obscurité et sortira. On fera un trou dans le mur pour le faire sortir par là. Il se voilera la face parce qu'il ne verra pas de ses yeux la terre. J'étendrai mon filet sur lui. Il sera pris dans mes raies, qui est nommé filet. Je l'emmènerai à Babylone, au pays des Chaldéens, mais il ne la verra pas. Et là, il mourra. Et en effet, Sédécias a été capturé dans sa fuite. Il a fui Jérusalem en partant vite. Il a été capturé et puis ils lui ont crevé les yeux et il est arrivé à Babylone et là il est mort à Babylone, mais il n'a même pas vu de ses yeux le pays de Babylone, le pays de la Chaldée. Donc là on a vraiment c'est les premiers chapitres, c'est beaucoup de choses très négatives, des jugements difficiles et ça continue encore, les chapitres 13 à 24 avec des oracles contre Israël et contre Juda, il y a les deux, Juda et Israël. Contre les faux prophètes, contre l'idolâtrie. Mais il commence à y avoir dans ces chapitres des choses positives. On voit qu'il commence à y avoir le relèvement, l'annonce du relèvement de la maison de David. Donc Dieu qui avait promis qu'il y ait toujours, de façon éternelle, grâce à Jésus, un descendant qui règne sur la maison, un descendant de David. Et donc là, il commence à y avoir une annonce du Messie. Et un des messages aussi dans ces chapitres 13 à 24, c'est la responsabilité individuelle de chacun. Chacun sera puni pour son péché et plus pour celui de ses parents, et pas pour celui de ses parents. On voit dans Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et puis aussi, la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est pourquoi je vous jugerai chacun suivant ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Détournez-vous et convertissez-vous de tous vos péchés, et l'iniquité ne deviendra pas votre ruine. Rejetez de dessus vous tous les péchés que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Et ce principe de chacun meurt pour ses péchés n'est pas nouveau puisqu'il est déjà dans le Deutéronome, Deutéronome 24, 16. Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères. C'est pour son propre péché que l'on sera mis à mort. Donc on voit que ce principe était déjà là, mais en fait, dans le récit biblique, jusqu'à ce moment-là, il y a surtout une emphase sur la punition collective, les conséquences d'un péché sur la famille, toute une famille. Il y a des familles qui sont exterminées, par exemple la famille d'Acan qui est exterminée parce que le père a péché. Il y a voilà, ce jugement un peu collectif. Et dans les rois et les chroniques, on voit les conséquences des actions du roi sur tout le peuple. Quand le roi met la confiance en Dieu, le peuple le suit et le pays est vainqueur et est en repos. En revanche, quand le roi se met à pécher, le peuple se met à pécher aussi, et puis le pays est soumis à ses ennemis. Donc, il y a cette notion aussi d'alliance collective, c'est vraiment une alliance. Le peuple, c'était une alliance depuis l'alliance avec Moïse, enfin depuis Moïse. Et donc, c'est pourquoi les paroles, même si ça existait déjà, le Dieu est juste, mais c'est pourquoi les paroles d'Ézéchiel préparent la venue du salut individuel par Jésus. Donc on voit vraiment ce commencement de changement de l'emphase sur voilà, le peuple en tant que peuple, et puis maintenant il va y avoir le salut individuel. Alors après, il y a aussi, un peu plus loin, oui, ça c'était juste parce qu'il y avait un verset que je voulais... C'est, voilà, si, c'est Dieu qui annonce la restauration d'Israël, donc, et on voit que là, on commence à voir aussi la notion de la grâce de Dieu, puisque il y a beaucoup de moments où il montre que Dieu est vraiment très dur pour punir le péché, mais il montre qu'il aime aussi son peuple et qu'il va le restaurer. « Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai compassion de toute la maison d'Israël. » Et puis au chapitre 24, le jour, donc ça c'était avant la destruction d'Israël et la destruction de Jérusalem, et donc c'était pour préparer le peuple. Et puis au jour, le jour où Nebuchadnezzar commence le siège de Jérusalem, enfin c'est pas lui, c'est son chef des armées, mais bon là, Ézéchiel perd sa femme bien-aimée. Dieu lui prévient, tu vas, voilà, et il lui dit que Dieu lui demande de ne pas porter le deuil, de ne pas pleurer. Et il dit, c'est le délice de tes yeux, c'était vraiment sa femme bien-aimée. Et c'est un signe comme quoi le peuple devra accepter cette destruction de Jérusalem sans pleurer, sans se lamenter, parce que c'est la justice de Dieu. Ils devront accepter le jugement de Dieu comme, voilà, comme ça. Et aussi, l'objectif, c'est qu'ils réfléchissent, qu'ils restent en eux-mêmes, qu'ils ne fassent pas le deuil, parce qu'il y avait aussi dans les deuils, il y avait aussi une dérive un petit peu. Donc là, c'est vraiment réfléchir en eux-mêmes sur, voilà, pourquoi il y a eu ce jugement de Dieu, leur péché, à cause de leur péché. Et puis à ce moment-là, ce jour-là aussi, Dieu annonce à Ézéchiel qu'il ne va plus parler pendant un temps, jusqu'au moment où un fugitif annoncera que ça y est, Jérusalem a été détruite. Donc là, ils sont en Chaldée. On voit, c'est écrit que c'est le jour où le siège commence, mais là où habite Ézéchiel, il ne savait pas que le siège commençait. Et donc tout ça arrive, et puis c'est seulement deux, trois ans après, qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qui va dire, ça y est, Jérusalem est détruite. Et c'est là où Dieu va redonner la parole à Ézéchiel. Donc il va rester muet, il va continuer à entendre Dieu lui parler, mais il ne va pas parler, lui, il va écrire. Et c'est notamment dans ce moment-là où il va écrire contre les nations qui sont autour d'Israël. Dieu ne s'adresse pas non plus à son peuple, donc c'est vraiment là des prophéties qui sont pour tous les peuples autour. Et donc ces prophéties, il a sans doute transmis par lettres. De toute façon, il fallait qu'il les envoie à des pays lointains. Donc voilà, c'est des lettres. Il y a 7 nations étrangères qui sont mentionnées, enfin qui sont à qui Dieu s'adresse à travers Ézéchiel. Et l'un des reproches principaux à ces nations et à ces rois, quelquefois ça s'adresse directement au roi, c'est l'orgueil. Et on voit notamment une magnifique complainte sur le roi de Tyr, qui est la nation juste au nord d'Israël, qui est une complainte et des reproches aussi, et où Dieu le compare à Adam. En fait, il utilise les mêmes termes que ce qu'il pourrait utiliser pour Adam. On voit vraiment l'orgueil, la racine du péché, c'est l'orgueil. Mais donc le message que Dieu adresse à ce moment-là, c'est que Dieu contrôle tout. Même si on voit, les Juifs, ils voyaient que ça y est, c'était la fin. Ils avaient l'impression que c'était la fin. Mais Dieu contrôle tout et les nations seront jugées aussi. Israël et Juda sont jugés pour leur péché, mais les nations aussi sont jugées. Et puis, au chapitre 33, là, c'est une nouvelle partie. Dieu redonne la parole à Ézéchiel. Il n'est plus muet. Et presque dans les mêmes termes qu'au début, il va redire à Ézéchiel sa vocation de sentinelle, de prophète, pour détourner le peuple et tous les méchants de leur mauvaise voie. Donc au chapitre 33, la 12e année de notre captivité, au 10e mois, le 5 du mois, un fugitif de Jérusalem arriva vers moi en disant « La ville a été prise ». Or, la main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée de ce fugitif, et elle avait ouvert ma bouche avant qu'il vienne vers moi le matin. Ma bouche fut ouverte et je ne fus plus muet. Et puis, un peu plus loin dans le chapitre, « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent auprès de toi, près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, « Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel ». Ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit, d'ailleurs on voit qu'ils chantaient aussi peut-être, habile dans la musique, mais on voit en tout cas que Ézéchiel, à l'inverse de beaucoup d'autres prophètes, il n'a jamais été inquiété, il n'a pas été rejeté par le peuple. Au contraire, le peuple reconnaît que c'est un prophète et ils viennent l'écouter. Mais malheureusement pour eux, ils ne croient pas vraiment à ce qu'ils disent. Ils n'arrivent pas à se repentir. Et parce qu'en fait, il y avait une partie du peuple qui avait toujours l'espoir de, par sa force, se relever. Ils disaient toujours, mais on va arriver à en sortir, mais pas grâce à Dieu, mais par leur propre force. Et donc, ils ne s'humilient pas, ils ne se repentent pas, ils ne se soumettent pas vraiment à Dieu, et c'est pour ça que le jugement arrive. Et puis Ézéchiel, sans doute, a dû faire aussi attention à ne pas se détourner de sa vocation par les flatteries et voilà, le fait qu'il soit plutôt bien accepté par le peuple. Parce qu'il avait quand même des choses très difficiles à dire. Donc quand on est flatté par quelqu'un, ça peut faire qu'on n'ose plus trop lui dire les vérités. Et malheureusement, et donc heureusement, il continue, et au chapitre 34, Dieu condamne les chefs du peuple et annonce qu'il va lui-même prendre soin de ses brebis. « Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Et donc là, c'est vraiment l'annonce de Jésus qui va venir paître les brebis. Donc il y a vraiment un message où il montre que les bergers actuellement ne s'occupent pas bien du peuple, ils s'occupent plutôt d'eux-mêmes, et que c'est Jésus qui va venir, donc le Jésus fils de David, donc là on parle de David, mais en fait c'est un descendant de David, qui va être le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jusqu'à présent, Dieu est notre... En particulier à partir du moment où le peuple a dit à Moïse, on ne peut plus écouter Dieu, c'est trop, on a trop peur. Parle-nous à travers, enfin, dis-nous que Dieu te parle à toi, et puis nous, tu nous diras ce qu'il t'a dit. Et donc depuis ce moment-là, Dieu parle à travers des prophètes, à travers des psalmistes, etc., enfin d'autres personnes, mais le peuple, il y a un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et puis là, c'est vraiment l'annonce que Jésus, cette nouvelle alliance, en Jésus, nous avons un accès direct auprès du peuple, de Dieu, pardon, et que grâce à son esprit qui est en nous, on peut lui parler directement et il peut nous parler directement. Donc ça, c'est un beau chapitre messianique. Et puis, il y a ensuite l'annonce du relèvement d'Israël, le rétablissement national dans le pays, le renouvellement spirituel complet, et puis un état de prospérité et de gloire. Donc là, ça, c'est des moments qui vont se vivre dans les siècles, enfin, dans les décennies et les siècles suivants, mais aussi dans le futur, hein, parce qu'il y a des choses qui sont pas encore arrivées, on va dire. Donc la fin du chapitre, Ézéchiel 36, « Je vous tirerai des nations et vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur votre sol. » Donc Dieu cherche à amener son peuple à la repentance dans le présent pour que vraiment il se repente de son péché et qu'il donne sa confiance complète en Dieu. Et puis lui redonner la confiance à l'avenir pour lui montrer que ben voilà, c'est pas, il n'y a pas la destruction complète. C'est la destruction physique de la ville, mais pas de la, du peuple élu. Et puis au chapitre 37, il y a une vision saisissante, la vision des ossements, sur laquelle je vais revenir à la fin. Mais avant, je veux juste finir la description rapide des parties après. Donc à partir du verset 38, les visions d'Ézéchiel, c'est surtout sur la fin des temps. En 38 et 39, il parle à Gog et Magog, qui sont vraiment l'archétype de la méchanceté des nations, mais aussi des méchants qui cherchent à faire le mal et à détruire le peuple de Dieu. Et on voit dans ces versets, dans ces chapitres, que vraiment Dieu va les juger. Et donc, ça c'est pour montrer vraiment que une image du jugement final sur le mal. Et puis, à partir du chapitre 40, encore une vision saisissante, celle du nouveau temple rempli de la gloire de Dieu et du torrent de vie qui en sort. Et ça, c'est des images de la Jérusalem future, mais aussi le torrent de vie, c'était le torrent de l'esprit à partir de la Pentecôte qui a fait que l'Église a augmenté comme le torrent. On voit que c'est un torrent qui augmente alors qu'il n'y a pas d'affluent. Plus on s'éloigne de Jérusalem, de cette nouvelle Jérusalem, plus le torrent devient fort. Et en fait, c'est vraiment comme l'image aux actes des apôtres, là, l'Église qui augmente chaque jour où Dieu sauve les gens. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous ces chapitres, hein, mais c'est vraiment un survol pour vous donner cette vision globale. Et je vais revenir maintenant sur la vision des ossements. Et puis sur ce que cela peut nous dire aujourd'hui. Et donc là, c'est le chapitre 37. On va lire. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. C'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai sur vous des muscles, je vous revêtirai de chair et je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair et je vous couvrirai. Ah pardon, ça a été répété. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Donc là, c'est Ézéchiel qui de nouveau parle, prophétise. Et donc, alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Dieu m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Et puis, à la fin du chapitre, Ézéchiel 36, 26, « Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, celui qui considère Israël comme saint, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Et donc là, j'ai juste mis une illustration, si tu passes juste à l'après, de Gustave Doré. C'est pareil, c'est difficile à illustrer, mais bon, voilà. Donc on a cette vision qui montre l'état actuel du peuple, avec des ossements qui sont éparpillés. C'est même plus des squelettes, les ossements sont éparpillés. Donc c'est vraiment le peuple qui est sans espérance, perdu, comme mort, il ne peut plus s'en sortir. Ça y est. Et Dieu, par l'intermédiaire d'Ézéchiel, par la parole de Dieu, va commencer à redonner vie à ces os, qui va les rassembler et leur mettre la chair autour. Et puis, ils vivent, mais ils vivent pas vraiment encore, parce qu'il n'y a pas encore l'esprit. Et là, on voit qu'il y a une deuxième parole où l'esprit, Dieu met son esprit dans ces nouveaux, enfin ces personnes, et pour qu'ils puissent se lever et vraiment vivre. Alors ce passage ne parle pas de la résurrection, hein, c'est vraiment le relèvement d'Israël. Les tombes dont il parle, là, c'est les nations dans lesquelles le peuple a été dispersé. Il y en a eu un peu partout, beaucoup près de Babylone, mais en Assyrie, et puis voilà. Et Dieu va se glorifier à travers ce relèvement. Et cette vision nous parle aussi de ce que Dieu veut faire ou a déjà fait en chacun de nous. On était mort, on était spirituellement coupé de Dieu, on ne pouvait plus rien faire, on était incapable d'agir pour le bien. Et Dieu, par sa parole qui agit en nous, nous a fait revivre, nous a convaincus de péché, et nous, par son esprit, il nous permet de revivre, et de revivre spirituellement, de retrouver cette communion avec notre Dieu. Et donc c'est cette image aussi que je voulais souligner. Et puis si certains d'entre vous n'ont pas encore vécu cette sorte de résurrection, mais spirituelle, vraiment ce renouveau, ce relèvement spirituel, ben moi je vous invite à vous laisser convaincre par l'Esprit. Que l'Esprit vous convainque de votre péché, du fait que Dieu est juste et qu'il veut vous sauver, que c'est lui qui agit, c'est pas nous. Et on est incapable de faire le bien sans l'Esprit de Dieu qui nous convainc que lui, il nous aime et qu'il veut que nous vivions avec lui pour l'éternité. Donc, il veut que nous lui abandonnions notre vie, qu'on se laisse remplir par son Esprit. Juste un verset pour illustrer ça, Romains 5. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est lui qui est venu nous chercher. » À la différence des autres religions où on essaye d'aller vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous pour nous chercher, pour nous relever. Il y a une autre illustration de ce processus dans le passage dans Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors on trouve aussi ce passage exactement le même au début du livre hein, d'Ézéchiel, et ça montre vraiment que c'est Dieu qui nous transforme en mettant son esprit en nous. C'est lui qui nous donne la volonté, il nous donne le vouloir et le faire, la volonté de l'accepter, et la volonté aussi de lui obéir. Mais ça montre qu'on doit lui obéir, on doit accepter d'être transformé, et nous laisser transformer, c'est un passif actif, entre guillemets. On doit accepter de se laisser transformer, de se laisser remplir par l'Esprit. Et on voit en Éphésiens de se laisser continuellement remplir par l'Esprit parce que c'est quelque chose qui est jusqu'à présent On n'est pas encore parfait et donc on doit se laisser remplir. Donc comme ces ossements, on doit vraiment laisser l'Esprit nous remplir et agir en nous. Ainsi, Philippiens 2, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui agit en nous, mais voilà, il y a quand même le travail. Hein. C'est ça qui est aussi le mystère. Hein. Le mystère de l'élection, c'est que Dieu vient nous chercher par sa grâce. On n'a aucun mérite, on est sauvé par la grâce de Dieu, mais si en revanche on refuse cette grâce, c'est de notre faute complètement. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours, le vouloir et le faire, on laisse Dieu agir, mais on doit quand même agir. Donc c'est une des choses pour moi qui est aussi quelquefois difficile de savoir. Jusqu'après, moi je suis un peu quelqu'un d'actif, j'ai envie de faire, et quelquefois il faut laisser Dieu faire, mais en même temps, on n'attend pas non plus. Et donc, en conclusion, je voulais vous encourager, donc j'espère que ça vous a donné envie de lire ou relire sans doute pour la plupart, relire ce livre, avec ces messages un peu globaux, et on va revoir un peu les messages principaux. On a une responsabilité individuelle devant Dieu, donc ça c'est un message bien sûr, on est voilà devant le Dieu, notre péché, la conséquence du péché c'est le jugement de Dieu évidemment, mais grâce au salut... On est libéré de ce jugement par Jésus. À l'image de la destruction de Jérusalem et de la nation d'Israël avant le relèvement, la mort est nécessaire pour vivre. Le passé doit mourir pour que l'avenir soit possible. Nous devons mourir au péché pour ressusciter avec Christ. Ça, c'est vraiment l'image, voilà, une des images aussi de ce livre. C'est un livre où on parle beaucoup de l'Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes restaurés et que nous vivons une vie qui le glorifie. Et puis même si nous voyons l'ennemi avoir des victoires, Dieu a tout dans ses mains. Les nations seront jugées à la fin, les méchants seront jugés à la fin, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit quand même de plus en plus, Jésus l'avait dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Moi, c'est en ce moment, c'est ce qui me touche, c'est qu'on voit on a l'impression un peu comme quand Israël était là, il voyait les nations qui commençaient à le submerger, mais notre espoir, il est en Dieu. Dieu, il a tout dans ses mains, et il va se glorifier à la fin, parce qu'il va juger ces nations, il va juger, et il va se glorifier aussi à travers l'Église. Et comme tu le disais, la foi, c'est avoir aussi foi que Dieu, dans son amour, a tout dans ses mains, il nous aime, et il va nous protéger, et nous sauver et se glorifier à travers l'Église aussi.